Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa?
Met de tandem op wereldreis, op zoek naar de Vader.
In deze coronacrisis, waardoor het reizen sterk wordt beperkt, biedt Radio Maria, jullie beste luisteraars, de kans de wereldreis met Alix en Benoît per tandem te herbeleven. Wekelijks van september 2014 tot juni 2015 brachten zij ons telefonisch op de hoogte van hun avontuur en hoe het vaderschap wordt beleefd in de vele landen en culturen. Tijdens deze zomermaanden kan u hen beluisteren, elke dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag om 14:15. Hun reis met foto's kan je trouwens nog altijd bekijken op hun website. In één woord, entandempourlepère.com. We wensen jullie een aangename reis door de wereld.
Beste vrienden, wij zijn hier terug met een nieuw interview met Alix en Benoît op hun tandem de wereld rond op zoek naar de Vader, naar uitleg over het ware vaderschap. De voorbije week waren ze in Rome. De tandem kon wat rusten en zij ook uiteindelijk na hun eerste 1450 kilometer vanuit Lyon. Ze hebben zeer veel en interessante gesprekken gevoerd over dit thema. Veel te veel voor in één uitzending. Jullie kunnen er vandaag een deel van horen en de rest houd ik als aanvulling in de uitzendingen die nog zeker komen. Graag meld ik erbij dat men nu ook luistert naar Radio Maria Vlaanderen in Frankrijk via internet. Vele Fransen houden ervan even de stem te horen van het reizend koppel. Donc, amis français et françaises, bienvenue sur Radio Maria Flandre. Vous entendrez une partie du long interview que j'ai eu cette semaine et le reste, je conserve pour les futures émissions. C'est un bon début pour apprendre un peu le néerlandais. Het eerste waar ik naar vroeg aan hen was natuurlijk over hun ontmoeting met kardinaal Robert Sara. Deze kardinaal is afkomstig uit het Afrikaanse Guinea en geboren in 1945. Reeds op 34-jarige leeftijd werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot aartsbisschop van dit Afrikaanse land. En vandaag is hij de voorzitter van de pauselijke raad Cor Unum. Het coördineert alle katholieke verenigingen in verband met ontwikkelingssamenwerking en liefdadigheid. En luisteren jullie maar verder.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Tu sembles moins fatigué.
Et oui.
Je trouvais sur la photo de Rome, la première photo.
L'arrivée à Rome était un peu dure pour la fatigue.
Un peu trop de kilomètres par jour.
Oui.
On va peut-être commencer avec votre rendez-vous avec le cardinal Sara. C'était le jeudi à 11h. Alors, comment ça s'est déroulé?
Ça s'est bien passé. Nous étions un petit peu impressionnés parce que c'était notre premier, on va dire, rendez-vous un peu formel. Avant, c'était des gens qui nous accueillaient, qui nous accueillaient pour la nuit, etc. Donc, du coup, on arrivait à prendre hein, les voir de manière plus informelle. Et là, c'était vraiment un vrai rendez-vous. Alors, c'est impressionnant de voir un cardinal, etc.
C'était la première fois dans les bâtiments du Vatican que vous entrez.
Oui, exactement.
Bij aanvang van Skype staan onze camera's op. En zo vond ik Benoît minder vermoeid dan op de foto bij aankomst in Rome. Maar ze hadden toen vele kilometers afgelegd per dag, meer dan wat ze gemiddeld gepland hadden. Dus deze week in Rome doet beiden deugd. De ontmoeting met kardinaal Sarra is goed verlopen. Maar we voelden ons wat onder de indruk, want het was veel meer officieel, deze ontmoeting. Anders dan met de gewone ontmoetingen die we tot nu toe gehad hebben. Het was indrukwekkend een kardinaal te mogen ontmoeten. Het was ook hun eerste keer in de gebouwen van het Vaticaan.
On a été reçu
un petit salon.
Un petit salon là où je pense qu'il voilà. Alors nous avons voulu essayer de mettre la caméra en route avec le micro. Alors du coup, ça donnait vraiment on avait l'impression d'être des journalistes.
Et le contenu ?
Ce que nous avons retenu, c'est une insistance sur le fait que le père était là pour préserver l'unité de la famille et qu'il avait un devoir de rappeler aux enfants d'être présent au sein de la famille.
Alors oui, l'unité et la présence. Ouais. C'est-à-dire que c'était deux points importants. À la fois, il disait, le père doit inviter ses enfants aux grandes fêtes, c'est-à-dire par exemple à Noël, les enfants doivent être là avec les parents, c'est important, dans les grandes fêtes, et puis même pas que dans les grandes fêtes, hein, mais voilà. Mais pas simplement ça, mais il fallait aussi la présence. Et il a rapproché ça de la messe. Il disait, parfois on est à la messe, mais en fait on n'est pas là, on n'est pas présent. De dire finalement c'est pareil, le père doit faire en sorte que les membres de la famille soient présents les uns aux autres, et ça passe par des choses tout simples, c'est-à-dire couper la télévision pendant le repas, couper la radio pendant le repas et faire que les membres de la même famille discutent ensemble.
We werden ontvangen in een klein salon. We voelden ons wat zoals journalisten toen we onze camera en micro inschakelden. De kern van zijn uitleg was dat de vader de behoeder is van de eenheid in het gezin. Dat hij de opdracht heeft aan de kinderen te doen herinneren zijn aanwezigheid in de schoot van het gezin. Twee punten sprongen uit, de eenheid en de aanwezigheid van de vader. De kardinaal gaf als voorbeeld, de vader moet zijn kinderen uitnodigen. Met de grote feesten moeten de kinderen thuis zijn met de ouders, dat is belangrijk. Maar niet alleen met de grote feesten. Maar hij wou gewoon de normale aanwezigheid van de vader benadrukken. Hij vergeleek het met het bijwonen van de mis. We zijn er, maar soms niet echt aanwezig. De vader moet ervoor zorgen dat de leden van het gezin er zijn, de een voor de andere. En de kardinaal gaf zeer eenvoudige puntjes. De tv afzetten of de radio afzetten tijdens het eten. Zodat de leden van het gezin gezamenlijk praten aan tafel.
Lui le remarquait dans certaines familles en disant mais on a perdu le sens du repas familial. Oui. Le repas où tout le monde s'assoit autour de la même table et on prend le temps de discuter les uns aux autres. Voilà. Et il parlait également du respect que les enfants doivent avoir envers leurs parents. La place du père et de la mère doit être respectée par les enfants. Lui ayant été choqué une fois, quand il était plus jeune séminariste, allant chez un ami séminariste également, et ayant été choqué de la manière dont ce dernier avait répondu à son père. Il avait dit à son père, mais tu mens. Et le cardinal Sarra se souvient d'avoir été profondément choqué, parce que lui, mais jamais il ne se serait permis de dire d'accuser son père ainsi, non pas de ne rien dire, mais il aurait fait attention à la manière de le dire et puis s'arrêter au sein d'une vraie discussion avec son père.
Eh ben, il disait, papa, est-ce que tu ne crois pas qu'on peut penser ça plutôt aussi, voilà, est-ce que tu es sûr à 100% de ce que tu avances, ou, voilà. Mais la forme est importante. Il faut dire la vérité, mais il faut mettre la charité avec.
En Alex vervolgde, we hebben de zin verloren, aldus deze kardinaal, van de gezinsmaaltijd, waarbij 's avonds iedereen samen aan tafel zit om te praten. Dan had de kardinaal het ook over het respect dat de kinderen moeten hebben voor hun ouders. De positie van vader en moeder moet gerespecteerd worden door de kinderen. Dan vertelde de kardinaal hoe hij ooit eens gechoqueerd was als seminarist. Hij was op bezoek bij de ouders van een mede-seminarist. En deze laatste had nogal vlakaf aan zijn vader gezegd: "Je liegt." Bij hem, bij de kardinaal, zou het nooit opgekomen zijn op die wijze te praten tegen zijn vader. Hij had het niet over wat er gezegd was, maar over de wijze hoe dit gezegd werd. Hij had aan zijn vader moeten zeggen: "Papa, ben je helemaal zeker van wat je zegt juist is?" enzovoort. Dus de vorm is zeer belangrijk. Je mag de waarheid zeggen, maar steeds met naastenliefde erbij.
Nous avons discuté aussi un peu de la théorie du genre.
Ah oui.
Puisque il a écrit des articles et il a fait des conférences à ce propos, parce qu'on commence à essayer de l'implanter en Afrique.
Oui.
Et lui voulait prévenir ce danger. Voilà. Et il disait combien c'était dangereux et ô combien il fallait éveiller les consciences. Parce que trop souvent, on voit ça comme quelque chose qui passera. Et lui disait, mais attention, ça va faire du mal. Ça va faire beaucoup de mal si on n'y prête pas attention.
Een laatste thema die kardinaal Sarah aankaartte was de gendertheorie. Hij heeft daar conferenties over gegeven en artikels geschreven. Men wil deze theorie volop introduceren in Afrika. En hij wenst de mensen te waarschuwen, te sensibiliseren voor dat gevaar. Velen aanzien deze theorie als, och, iets dat vanzelf wel zal voorbijgaan. Maar hij beklemtoonde dat dit veel kwaad zal berokkenen als we er geen aandacht aan schenken.
De kardinaal Sarah, ce n'était pas un chemin pour pouvoir aller chez le pape.
Ça n'est pas venu dans la conversation.
Ah, vous n'avez
et
pas
finalement,
demandé.
Non, on n'a pas demandé.
Non.
Et finalement, on s'est dit que voilà, à travers le cardinal Sarah, on avait aussi le message de l'Église, et lui est proche du Saint-Père. D'autres disaient, ce sera quand vous aurez fini votre tour du monde que vous reviendrez à Rome. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez demander plutôt le mot de la fin finalement au Saint-Père.
En kardinaal Sarah was uiteindelijk niet de weg het middel om bij de paus te geraken. Maar eigenlijk hebben Alex en Benoît het hem niet gevraagd. En Alex vertelde, uiteindelijk, via wat de kardinaal vertelde, bekwamen we de boodschap van de kerk van iemand die toch heel dicht bij de paus staat. Anderen vrienden in Rome vertelden hen dat ze beter op het einde van de reis terugkomen naar Rome en dan misschien de kans wagen om aan de paus de bewuste vraag te stellen over het vaderschap. Ik vroeg hen of het gelukt was Monseigneur Lafitte te ontmoeten, de secretaris van de Pauselijke Raad voor het Gezin. Maar dat lukte niet, daar deze man het te druk had. Ze werden wel geholpen door zijn secretaris. En deze laatste liet een bevriende huisvader komen en speelde voor tolk en samen hebben ze geluncht. En we luisteren verder.
Lui avait fait une vraie réflexion sur la... sur son rôle de parent avec sa femme. Donc, ils ont trois enfants. Le troisième enfant est décédé 40 minutes après sa naissance. Ils le savaient, ce qui était préparé, mais ça leur a vraiment, cette histoire leur a vraiment permis de mesurer et d'approfondir leur rôle de parent. L'enfant est parti juste après que la mère ait eu le temps de le prendre dans ses bras.
Ils le savaient d'avance, longtemps en avance. Ils avaient pu se préparer, mais voilà.
Deze vader heeft het gehad over zijn rol van ouders, dus samen met zijn vrouw. Ze hebben of hadden 3 kinderen. Het derde kindje is overleden 40 minuten na de geboorte. Ze waren er wel al heel vroeg op voorbereid. Maar deze gebeurtenis heeft hen zeer duidelijk de rol van de vader en de moeder laten aanvoelen. Het kind is trouwens overleden met nog de kans in de armen van de moeder te liggen.
Alors lui disait par rapport donc à ses deux enfants que ce qui était important lui semblait important c'est l'unité des parents. Si les parents sont unis, ça se ressent beaucoup sur les enfants. Une fois, il avait commencé à se disputer, enfin légèrement en l'occurrence, c'était léger avec sa femme, et son fils est venu le voir en lui disant « Papa, il faut pas que tu disputes maman ». Ça, c'est intéressant.
En Benoît vertelde, de vader benadrukte de eenheid tussen de ouders. Zo waren de ouders eens wat aan het discuteren, en de jongste zei: papa, je mag zo niet discuteren met mama. En dan volgde nog een andere beslissing die het koppel had genomen.
Donc ils ont fait le choix.
Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants, pour être plus présent.
Donc là-dessus, ils ont fait notamment le constat que les enfants étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles. Et des amis ont fait le même choix et ils ont découvert ça à la suite. Voilà.
De moeder heeft dus beslist te stoppen met werken om meer bezig te zijn met de kinderen, om meer aanwezig te zijn. En wat ze vooral vaststelden is dat de kinderen veel kalmer, rustiger waren. En gehuwde vrienden hebben dit ook zo beslist en kwamen tot diezelfde vaststelling.
Mais, il remarquait une chose, c'est que finalement, bon, bah du coup, la maman, ils sont souvent avec la maman, puisque c'est même la maman après qui va leur faire l'école. Mais tous les événements que l'enfant vivait avec son papa, il en parlait de manière très particulière. C'est-à-dire qu'ensuite, il allait voir sa maman et en parlait. Ah bah papa, avec papa, j'ai pu. On a fait ça avec papa. On a construit une tente sur mon lit et des alors que dans l'autre sens, il n'y avait pas ces remarques. L'enfant n'allait pas voir sa maman, son papa, pour lui dire « j'ai fait ça avec maman ».
Maar dan volgde een merkwaardige vaststelling. En hier komt eigenlijk het belang ook van de aanwezigheid van de vader terug naar boven. De kinderen zijn dus veel met de mama. En het is dus ook bijvoorbeeld de mama die ze naar school brengt, enzovoort. Maar alle activiteiten die de kinderen met de papa verrichten, gingen de kinderen heel uitdrukkelijk vertellen aan de mama. We hebben dit en we hebben dat gedaan met papa. We hebben een tent opgezet op mijn bed. Maar eigenlijk omgekeerd gebeurde dat niet of veel minder, dat de kinderen aan de papa vertelden wat ze met de mama hadden gedaan.
We hebben discuté avec lui aussi d'un phénomène qu'on observe beaucoup en Italie, qui est le fait que les parents, grands-parents, habitent à côté des enfants. Et donc je lui ai posé la question, est-ce que ce n'est pas difficile de se positionner vraiment comme parent et donc d'être les premiers éducateurs, de nos enfants s'il y a les grands-parents qui sont juste à côté? Et lui répondait, effectivement, c'est quelque chose dont nous avons discuté avec ma femme et nous avons mis des limites pour que les grands-parents n'interfèrent pas dans notre éducation et qu'on puisse vraiment définir nos rôles, enfin nos priorités, pardon, vis-à-vis de nos enfants.
Dan vroeg Alex aan deze vader in verband met het fenomeen vooral verspreid in Italië, dat grootouders heel dicht bij de ouders en hun kinderen wonen. Geeft dat geen moeilijkheid om de positie veilig te stellen dat de ouders de eerste opvoeders zijn van de kinderen? En de vader bevestigde, met te verklaren dat hij daarover met zijn vrouw heeft gesproken en dat ze grenzen hebben gelegd, zodat de grootouders niet interfereren in de opvoeding, zodat onze primaire rol, zoals ze zeggen, in de opvoeding van onze kinderen heel duidelijk wordt bepaald.
En hij constatait tout de même que il avait beaucoup d'amis mariés qui n'avaient pas fait ce travail de réflexion et qui n'avait pas mis ses limites avec les grands-parents et qui avaient du coup des difficultés relationnelles avec leurs parents. Voilà. Donc il soulignait vraiment l'importance de clarifier les choses dans un pays comme l'Italie où la solidarité familiale est très très importante. Et du coup parfois trop, parfois s'il trop. Observait chez ses amis justement, parce qu'il y avait trop de générations dans la maison.
En ook hier stelde ze vast bij vele gehuwde vrienden die deze limieten niet hebben afgesproken met de grootouders. Ze stellen vast veel relatieproblemen juist met de grootouders. Dit is zeer belangrijk in een land als Italië, waar de familiebanden zeer groot zijn, maar soms te groot met allerlei moeilijkheden tot gevolg.
Voilà. Et une dernière chose sur laquelle il a insisté, c'est le fait que dans les premières années de l'enfant, les six premières années, puisqu'il a parlé de l'âge de jusqu'à l'âge de raison surtout, le père avait aussi un rôle très important, autant que la mère. Hein. Enfin là pour le coup, il a dit les deux parents, mais le père, c'est peut-être moins naturel. Lui disait, c'est moins naturel pour moi en tout cas. De donner de la tendresse. Parce que lui était convaincu que s'il donnait de la tendresse à son fils saurait qu'il est aimé et il pourrait affronter tout le reste, notamment la crise d'adolescence, certain d'être aimé et ça lui faciliterait la vie ensuite.
Wat de vader ook nog wou benadrukken, is dat bij de kinderen tot de zesde leeftijd beide ouders een zeer grote rol spelen. Maar hij benadrukte vooral de vader, want dat lijkt minder natuurlijk. Dus ook om tederheid te brengen, dan weet zijn zoon dat hij bemind is. Zo zal hij ook beter die puberjaren doormaken, wetend dat hij ook door de vader bemind is. En dat zal zijn latere leven vergemakkelijken. Beste vrienden, we gaan het daarbij laten en zoals beloofd laat ik de andere stukken van het interview horen in de volgende uitzendingen. Dit is beloofd. Benoît en Alix vertrekken deze week naar San Giovanni Rotondo, dus naar Pater Pio. En vandaar nemen ze dan in Bari de boot naar Albanië. Ze bevinden zich dus aan de hiel van dit land. Daar hebben ze afgesproken met de Albanese priester die ze in Rome hadden ontmoet. Ze nemen de trein. We spelen een beetje vals, lacht Alix. Dus de trein van Rome naar Pescara, dus de oostelijke kust van Italië. En dan leggen ze de 200 kilometer af met de tandem naar San Giovanni Rotondo. En daarna volgen nog een 150 kilometer naar Bari.
Alors, pour le prochain jour, qu'est-ce qu'il y a sur le programme?
Au programme, un départ départ de Rome mercredi matin, et nous voulons aller à San Giovanni Rotondo pour Padre Pio. Et nous continuerons notre route jusqu'à Bari pour prendre le bateau. Et donc, oui, la semaine prochaine, nous serons en Albanie.
Le prêtre albanais voulait que... voulait qu'on fasse comme ça pour que lui puisse venir, ça sera plus facile pour lui, disait.
Et de Rome à Perpio, c'est combien de kilomètres?
On triche un peu, on va prendre le train pour passer la chaîne de montagne qui est au milieu d'Italie.
On va jusqu'à Pescara en train, et après nous avons 200 km jusqu'à San Giovanni Rotondo, et ensuite à nouveau 150, je crois, pour Bari, à peu près. Voilà.
Voilà, je vous laisse. Allez, okay. Bonsoir. Merci pour l'interview et
merci beaucoup.
Met de tandem op wereldreis, op zoek naar de vader.